conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite.
Les cheminées des aciéries s'éteignent. C'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail.
Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 26 janvier, le dernier jeudi de ce mois de janvier 2017. Je vous parle et pendant ce temps, Laurent essaye de faire passer son rhume. Bonsoir à toi en tout cas. Bonsoir, donc il vous dit, il se mouche, je vous disais. Ce soir avec Laurent, nous partirons au Moyen-Orient, on parlera de la situation en Israël et en Palestine. On parlera des États-Unis d'Amérique et de la France et du Liban. Nous reviendrons sur le film 3000 nuits. Nous parlerons de Monsieur Trump qui commence très très bien, très très fort. Il va très très loin, il va aller très très vite. Nous irons aussi en Russie et puis on fera un petit tour du côté du travail. On parlera en particulier du travail le dimanche parce que le travail, c'est bien connu, c'est bon à la santé. Surtout le dimanche. Et puis nous aurons des informations plus environnementales avec le Lyon-Turin par exemple. Et puis si on a le temps, on terminera par quelques infos du côté des fachos de Facholand. Mais c'est vrai que cette semaine, on a quand même beaucoup entendu parler de probité. Alors la probité, je vous rappelle que d'après Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements. Alors cette semaine, on a un candidat dont l'épouse aurait été rémunérée pendant 8 ans pour n'avoir rien fait, et puis un candidat qui aurait utilisé les fonds de son ministère pour développer son parti. Alors c'est vrai que bon, on n'en entend pas trop parler, hein, on s'était fait la remarque avec Laurent, du côté du Front National, on les sent un petit peu crispés.
Bah oui, parce qu'ils ont plein d'affaires identiques qui traînent, notamment sur les assistants parlementaires, au niveau de l'Europe, au niveau de voilà. Et donc bon, et ben du coup ils critiquent pas Fillon, ils disent rien.
Hein. Alors ils critiquent mais pas trop en disant que quand même c'est un homme honorable. On les sent quand même un petit peu gênés aux entournures, hein, puisque les membres du Front National ont été comme les autres dans les médias pour s'exprimer sur cette affaire. Monsieur Fillon qui n'avait pas hésité à se présenter comme le chantre de la moralité, Monsieur Fillon qui aime le luxe, mais ce n'est pas le même genre que Monsieur Sarkozy. Ça, on doit bien s'en rendre compte. Mais il faut bien se rendre compte que Monsieur Fillon, François, il a été élu député à 28 ans, après avoir été lui-même assistant parlementaire. En fait, il ne connaît que la politique, ce
donc
monsieur.
Donc, en fait, il n'a jamais travaillé, comme vous et moi.
Non, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais aussi, ça fait partie de ces professionnels de la politique qui ont pris comme habitude d'utiliser leurs frais de représentation, les voitures, les compensations, toutes bien mérité, hein, comme les avions, toutes ces facilités. Ces hommes et ces femmes en ont l'habitude. Et puis, on pourrait juste rappeler que M. Fillon a d'autres affaires qui a été soulevée par le Canard Enchaîné, comme sa boîte de consultants, de F Conseil, par exemple. Mais c'est vrai que M. Macron, lui, il est riche, suffisant et tout juste condescendant, hein, comme il faut. Une espèce de premier de la classe, un petit peu. En tout cas, c'est l'image qu'il voudrait donner. Mais c'est vrai qu'il faudrait rappeler que M. Macron a eu du mal quand même à payer son impôt, hein, de millionnaire. Souvenez-vous, souvenez-vous. En tout cas, lui, il estime que tout ça n'est que diffamation. Il n'a jamais utilisé des frais de représentation pour développer son parti En Marche, hein, n'est-ce pas? Mais moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est dans le livre de Frédéric Seize et Marion Lourd. Frédéric Seize, il est à France Culture, Marion Lourd, elle est à France Inter. Ce bouquin s'appelle Dans l'enfer de Bercy, et on y apprend que 80% des frais de représentation en 8 mois ont été utilisés par M. Macron. Ça, ça va nous faire un bon président, hein, si déjà il a bouffé tout le pognon du ministère de l'économie en quelques mois. Je pense que ça va nous faire un bon président, hein, comme Monsieur Fillon. Monsieur Fillon qui a été bien soutenu cette semaine, bon, pas par tout le monde, mais quand même on sent que il y a son camp qui veut faire croire que tout ça n'est aussi que diffamation et attaque mal placée. Mais il y en a qui se sont donné quand même beaucoup de mal, hein. C'est le cas de Madame Valérie Boyer qui hier mercredi, dans le cadre de l'émission C'est à vous sur France 5, a voulu défendre son candidat. Et elle a expliqué qu'il lui était arrivé d'embaucher, de rémunérer un de ses fils comme collaborateur. Et elle a ajouté, oui, mais pour des activités réalisées. Ah, oh, et là, elle a mis les deux pieds dedans, Valérie Boyer. Mais il faut bien dire, hein, que le Canard Enchaîné a été attaqué. Pourquoi le Canard aurait donc sorti cette information, là, maintenant, tout de suite? N'est-ce pas pour s'attaquer directement à Fillon? Bah si, Monsieur Fillon décide d'aller à la présidentielle. C'est un homme public et politique. Il se met en avant, il fait des déclarations, des informations sortent, et c'est bien normal. Alors, on y voit aussi le complot. J'ai trouvé un complot dans cette affaire. Ça vient de La Voix du Nord, d'un édito écrit par Hervé Favre, c'est dans l'édito du jour de ce jeudi. Alors il explique, bien sûr, la date de cette révélation ne doit rien au hasard et à la volonté de nuire aux candidats, cela saute aux yeux. L'attaque peut même venir de sa propre famille où l'affrontement des primaires a laissé des traces. Et voilà, tout de suite on se dit que l'attention derrière, il y a des gens qui ont été voir le Canard Enchaîné, hein, pour les sudoyer et leur dire d'attaquer M. Fillon. Il y en a qui pètent des câbles, hein, s'il y a bien un journal qu'on veut bien croire indépendant, c'est bien le Canard Enchaîné. En tout cas, moi ça m'a fait du coup me pencher sur le classement de Transparency, vous savez, qui tous les ans nous propose une évaluation annuelle de la perception de la corruption dans le monde. Et eh ben la France, elle est toujours 23e du classement. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, 23e, hein, c'est assez moyen. C'est comme en 2015, hein, là, donc c'est pour l'année 2016 cette analyse. Mais il faut noter là qu'il y a une baisse dans la note, c'est-à-dire que c'est une note de 69 sur 100. Plus vous êtes proche du 100, mieux c'est. C'était 70 en 2015, donc il y a quand même une petite baisse. Et puis nous reparlons de Monsieur Trump, mais Transparency International se pose bien la question de ce que va faire Monsieur Trump et est-ce qu'il va pas faire baisser la note des États-Unis d'Amérique. Et puis quand même, moi je voudrais juste parler aux opportunistes qui ont placé des pubs pendant les débats de la primaire. C'est la marque de matelas Bultex qui à chaque fois a placé des pubs, hein, pour ces matelas et le confort. Et ben a priori monsieur Jean-Yves Le Drian l'a bien vu, puisque tout le monde s'est moqué de lui aujourd'hui et hier sur internet, puisqu'apparemment il s'est un peu endormi pendant ce débat de la primaire entre monsieur Valls et monsieur Hamon, hein. Il avait la tête qui bougeait un petit peu sur les côtés, qui s'est un peu avachi au niveau du menton, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis pour terminer cette introduction, je vous invite à une activité touristique et participative si vous êtes autour de Paris. C'est Farine sur Costard qui appelle à enfariner François Fillon lors de son meeting prévu à 15h ce dimanche à la Porte de la Villette. Voilà, moi je trouve que c'est une activité intéressante si vous avez affaire un petit peu du tourisme.
Oui, contrairement à mettre des claques, qui est une agression physique, une vraie agression de quelqu'un, qui est à mon avis déplacé, y aller avec de la farine, l'impact est encore plus fort et il n'y a pas d'agression. Et là, c'est beaucoup plus marquant et vous risquez quasiment rien.
N'oubliez pas d'ouvrir le sac de farine avant de jeter la farine parce que là,
sinon,
ça devient une agression
un petit
peu violente.
Voilà. Ce qu'il faut, c'est les ridiculiser et non pas les tuer ou les blesser.
Oui, parce qu'on rappelle que ça en a fait péter des câbles à certains et à certaines et que du coup, c'est aussi intéressant de les voir comme ça, hors de leur face habituelle dans les médias.
Donc on va aller au Moyen-Orient et quelques petites infos liées au Moyen-Orient. Alors, des infos liées au Moyen-Orient et liées en fait à l'élection de Trump, hein, puisque tout se joue maintenant entre Benjamin Netanyahou et son nouveau copain Donald Trump, donc extrême droite, main dans la main, des deux côtés. Alors Netanyahou, officiellement, il n'est pas à l'extrême droite, mais il est tellement allié, il fait tellement une politique d'extrême droite, qu'on a du mal à ne pas le qualifier de politique d'extrême droite. Donc il a annoncé, alors avec un tweet, parce que ça fait hyper moderne, il fait son Trump un peu, il communique par tweet, il s'est vanté, il a dit « nous construisons et nous continuons à construire ». Donc il a annoncé officiellement avec ce tweet la construction de 2500 nouveaux logements dans des colonies juives illégales implantées en Cisjordanie, donc qui volent les terres des habitants palestiniens. Donc ça concerne beaucoup Ariel et Gus Etzion, mais aussi d'autres colonies comme Beth El qui se situe juste à la sortie de Ramallah, grosse ville palestinienne. Si vous êtes déjà allé en Cisjordanie, de toute façon, dès que vous êtes dans une ville palestinienne, vous tournez la tête et puis vous voyez une colline avec une colonie juive. Hein. Ça, il y en a un peu partout. Dans la Syrie, puisque ça, c'était que le début, hein, c'était mardi, entre-temps, la mairie de Jérusalem avait annoncé, elle aussi, 566 logements dans les colonies de Jérusalem-Est. Allez, on y va. Donc ça, c'est parce que officiellement, Netanyahou, juste avant, il avait annoncé la levée des restrictions, de toutes les restrictions sur les projets immobiliers de la ville de Jérusalem et dans toutes les colonies, c'est-à-dire dans toute la Cisjordanie. Et aujourd'hui encore, nouvelle couche, le feu vert officiel final de 153 nouveaux logements dans le Jérusalem-Est, illégalement occupé par Israël. Donc tout ça, c'est pas mal. Et comme le disait Benjamin Netanyahou lundi, il a dit « Nous sommes en face d'une chance formidable pour la sécurité et l'avenir de l'État d'Israël » avec l'élection, bien sûr, de Donald Trump. Tout va bien. Et d'ailleurs, Donald Trump, il a commencé ces petites choses en lien avec Israël-Palestine, puisque ils ont commencé à réfléchir à revenir sur l'aide de 220 millions de dollars qui avait été accordée au dernier moment par le gouvernement Obama. C'est le nouveau secrétaire d'État, l'ancien PDG d'ExxonMobil, gros pollueur mondial ExxonMobil, qui a annoncé qu'il allait réexaminer cette aide aux Palestiniens de Gaza de 220 millions de dollars, donc octroyée par l'équipe de Barack Obama, et donc portée par John Kerry pour le coup, puisque c'était le responsable des affaires étrangères. Et donc d'ici quelques jours, ça se trouve, il va complètement supprimer cette aide. Donc c'est bien parti. Alors ça, c'est la première étape de ce que va faire le gouvernement américain pour soutenir Israël et pour tuer l'idée de Palestine. Deuxième étape, ils vont couper tout l'argent qui peut aller de manière indirecte aux Palestiniens. Alors en fait, ils vont le faire à travers l'ONU, puisque les Américains, les États-Unis d'Amérique, on va dire, financent quelques organisations liées ou membres de l'ONU. Et ben ils vont revenir dessus. Il y a un audit qui est lancé. C'est un journal américain, le New York Times, qui l'a révélé, il faudra que dorénavant l'argent qui est donné à ces organisations, et ben il soit jamais donné à des Palestiniens. Donc ils vont regarder si ces organisations sont en lien direct ou indirect avec l'autorité palestinienne ou l'organisation de la libération de la Palestine. Vraisemblablement ils n'auront plus du tout d'argent. Alors on imagine l'UNESCO qui a reconnu l'État palestinien, ils vont plus avoir d'argent. Bon, mais ils en avaient peut-être déjà plus, vous allez me dire. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place comme ça. Et ça semble quand même très très mal parti pour les Palestiniens. Alors ça n'a jamais été bien parti, mais là je pense qu'ils vont découvrir de nouvelles choses et il va sûrement y avoir des nouvelles réactions. Donc voilà, c'est en tout cas très très mal parti. Et puis, tu parlais de Emmanuel Macron. Mmh. Emmanuel Macron est allé au Liban lundi et mardi. Il est allé faire son président. Ah, il ne l'est pas encore. Et vous allez voir que s'il y a encore quelques imbéciles de journalistes qui osent le qualifier de gauche, et ben avec les propos qu'il a tenus, vous allez vous rendre compte que c'est pas le cas. Puisque on lui a posé plein de questions, il a parlé de la crise syrienne, enfin de machin, de plein de trucs, et on lui a posé des questions sur l'idée de BDS, c'est-à-dire vous savez la campagne de boycott des produits israéliens, notamment ceux fabriqués dans les colonies illégales. Ça s'appelle donc BDS, ça veut dire un boycott des investissements sanctions. Il a dit qu'il était contre. Il a dit ah, attendez. La France a décidé, la Cour de cassation avait rendu un avis en 2015 hein, qui condamnait ce boycott. Et ben lui, il est contre. Donc, laissant entendre, quand on est contre ça, c'est qu'il est pour ce que font les entreprises israéliennes quand elles s'implantent illégalement. Donc il est pour les colonies, il est pour le vol de terre, il est pour tout ce qui se passe. Alors il va aller encore plus loin. Il a annoncé qu'il était contre la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Alors il précise, avant qu'il y ait un accord de paix signé entre les deux parties. Bon, ça. Et il a dit, il était contre les pressions sur Israël. Alors, on voit pas comment, sans mettre de pression sur Israël, il pourrait y en avoir un accord de paix. Donc, il va jamais reconnaître l'État palestinien. C'est vraiment quelqu'un de très très à droite pour le coup. Et puis alors, il va aller plus loin et pour nous montrer qu'il aime bien l'extrême droite aussi, parce que ça, on l'imagine un peu moins sur Macron, qui est un libéral. On se dit, les libéraux souvent, ils aiment pas trop l'extrême droite. Hein. Et ben lui, il est fan des dictateurs d'extrême droite. Puisqu'il est allé dire que sur donc du coup le dictateur Bachar el-Assad, donc d'abord il l'appelle toujours président, il l'appelle dirigeant, jamais il ne dit dictateur. Hein. On se rappelle, il a massacré des milliers de personnes, il est venu au pouvoir pas par des élections, hein, mais fils d'eux, hein, de l'autre Assad. Et donc tous les propos qu'il tient, il dit bah oui il le soutient, d'accord, c'est Assad a failli. Alors voilà, il a fait une faute, grosso modo. Alors tuer des dizaines de milliers de personnes, c'est faillir, bravo. Mais il dit qu'il faut pas le virer, tout ça, qu'il a sa place sur l'échiquier syrien. Bon, voilà, on a compris. Il soutient le dictateur syrien, il n'y a pas de souci. Vraisemblablement, il soutient la politique de colonisation d'Israël. Bon, ben voilà, on a un peu les idées politiques de Macron sur l'international. On n'en avait pas trop encore jusqu'à maintenant. On savait que c'était un libéral, qu'il était pro-entreprise, tout ça. Pour le travail le dimanche, contre les droits des salariés, tout ce qu'il a pu faire déjà quand il était membre du gouvernement de Hollande. Ou de Valls, si vous voulez. Eh ben on sait que maintenant sur les idées internationales, enfin la politique internationale, il se situe vraiment très à droite.
Hein. Ouais, parce que
et
quand même
plus à droite que le centre. Hein, l'UDI, ils ont des propos beaucoup plus mesurés sur Israël et sur Assad. Donc il se situe vraiment du côté de la droite et de l'extrême droite. Alors dans la série, par les dernières infos sur Israël-Palestine, c'est on va parler de Monsieur de Mordechai Vanunu. Donc grand, c'est un des premiers lanceurs d'alerte de l'histoire moderne, hein, puisque je sais plus quand c'était d'ailleurs, en 86, ouais, peut-être, enfin, en tout cas, au début des années 80, il avait révélé, un journal anglais, The Sunday Times, qu'Israël était en train de préparer la bombe atomique. Donc, il a fait un boulot d'information, en donnant aux journalistes cette info. Il a été emprisonné pendant 18 ans, bon, tout ça. Et il est sorti avec des conditions sur sa remise en liberté. Et les conditions, c'est de ne parler à personne, de pas partir, enfin de pas vivre quoi. En fait, ils ont agrandi les portes de sa prison au lieu d'être dans une pièce. Il est dans son appartement, mais il a le droit de parler avec aucun journaliste, etc. Mais il l'a fait quand même. Et il l'a fait, et du coup, il passait en jugement. Et on a eu l'info lundi, alors qu'il est passé quelques semaines avant, mais on n'avait pas du tout été informé. Enfin, le tribunal n'avait pas donné l'information. Donc il y avait trois infractions aux conditions de sa liberté. La justice a décidé d'en retenir qu'une seule, celle où il a rencontré deux Américains à Jérusalem en 2013. Ils ne retiennent pas contre lui le fait d'avoir parlé aux journalistes israéliens en 2015. Par contre, on ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. S'il va être condamné à retourner en tôle. Ou s'ils vont le tuer. Bon, non, mais ils vont pas le tuer.
Parce que je commence à m'effrayer là. Non, vous auriez
y a pas la peine. Alors officiellement, il y a pas la peine de mort directe en Israël. Il y a la peine de mort par les services secrets, par l'armée. Mais donc du coup, à moins que les services secrets l'assassinent, ce qui pourrait arriver, mais ils auraient pu le faire bien avant. Ne serait-ce que quand ils sont allés le chercher en Italie dans les années 80. Non, mais il risque de retourner en prison. Tout ça parce qu'il a révélé un truc important, c'est que son État préparait une bombe atomique. Voilà, bon, un lanceur d'alerte. Bon, enfin, personne le défend, ce lanceur d'alerte, hein, à part les écolos et les militants un peu de gauche ou d'extrême gauche. Tout le reste, tout le monde s'en fout. On va rester en Israël-Palestine.
Oui, alors on va vous parler du film 3000 nuits de Mahi Masri. Elle est palestinienne, elle vit à Beyrouth au Liban, elle est documentariste et c'est son premier film de fiction. 3000 nuits nous plonge dans le quotidien d'une prison de femmes en Israël dans les années 80. Ça se passe à Naplouse. Layal, qui est jouée par Maïsa Abd Heladi, est une institutrice palestinienne, une jeune institutrice, jeune mariée. Et elle est condamnée pour complicité de terrorisme. Elle a pris un jeune homme
en stop
qui est lui-même soupçonné d'être un terroriste.
Enfin, d'avoir attaqué des soldats.
Voilà. Bon, oui, mais ça, c'est ça. Oui. Hein, je suis un raccourci et considéré comme terroriste.
Je vous rappelle, ça se passe à Naplouse. Naplouse, c'est en Palestine, pas en Israël.
Tout à fait.
Voilà.
Le cadre est posé. Et là, elle est arrêtée, condamnée, jugée. Tout ça va se passer très vite. Et ce film va se trouver être un huis clos dans cette prison. Elle va passer 3000 nuits, hein, c'est-à-dire à peu près 8 ans. Hein, et là, elle va découvrir à l'occasion d'une visite médicale qu'elle est enceinte. Elle va donc accoucher, entravée derrière les barreaux.
Et elle va élever son petit en prison.
Voilà. Alors, il faut qu'on comprenne que elle est détenue dans une prison israélienne avec des Palestiniennes considérées comme terroristes et des Israéliennes qui sont là pour des faits de droit commun.
Voilà,
en général, la drogue, la prostitution, les agressions, le meurtre. Cette réalisatrice, elle veut dénoncer la vague d'incarcération injustifiée à l'époque, mais qui continue. Elle veut aussi parler de la maternité en prison. Elle dénonce l'isolement, l'impossibilité de voir ses proches, le chantage, les punitions, la brutalité, le racisme. Alors, ça se voit hein, que Mahi Masri, elle vient du documentaire. Son film est inspiré d'une histoire vraie. C'est une femme palestinienne rencontrée dans les années 80 qui l'a interpellée. Là-dessus, elle avait interviewé d'autres femmes prisonnières palestiniennes. Et c'est à partir de ces histoires qu'elle a écrit le scénario 3000 nuits et qu'elle a construit ce personnage. Alors, bon, c'est vrai, pour la petite critique quand même, c'est des personnages un peu faciles, un petit peu simplistes.
Un peu caricaturaux.
Oui, on a les matones israéliennes qui sont forcément, mais qui l'étaient, inhumaines.
Ouais,
on a l'avocate israélienne qui tente de faire respecter le droit international, de sauver Layal en même temps. Donc c'est un petit peu démonstratif, même dans sa mise en scène, mais c'est pour moi un film qui reste émouvant. C'est finalement un film universel contre les prisons, d'une manière générale. C'est une histoire de résistance, de solidarité, de femmes. Il faut comprendre que 3000 nuits, c'est réalisé par une femme, c'est produit par des femmes, c'est un casting majoritairement constitué de femmes. Et ce sont des Palestiniennes que Maïsa Masri est allée chercher. Certaines d'entre elles ont été emprisonnées, ou d'autres ont eu leur famille dans les prisons israéliennes. Donc elle s'est aussi appuyée sur l'expérience de ces femmes, mais en même temps, comme Mahi Masri le rappelle beaucoup dans les interviews qu'elle a pu donner, il y a historiquement près d'un million de Palestiniens qui seraient passés dans les prisons israéliennes. Tout le monde a de la famille qui a été emprisonnée.
Tous les Palestiniens, ouais.
Ouais, c'est ça, tout le monde, donc ça concerne tout le monde. Donc elle s'est appuyée aussi sur ça et elle a été tournée dans une prison militaire désaffectée de Zarqa, c'est en Jordanie, puisque le film a été tourné en Jordanie.
Avec des fonds jordaniens.
Avec des fonds jordaniens. Donc c'est pas du carton, vous voyez, c'est on a du vrai décor, du barreau.
C'est assez réaliste. Hein.
Je pense que ces femmes aussi se sont projetées aussi dans ce lieu qui a une histoire. Alors, c'est une prison militaire de surcroît, donc c'est pas un lieu qui est très très beau. Alors Moi, je trouve que c'est un film à aller voir quand même. Il joue toujours hein, sur cette troisième semaine.
Il, il reste quelques séances, c'est au cinéma opéra.
Je suis pas sûr qu'il joue. Enfin, il joue peut-être ailleurs. Débrouillez-vous, vous êtes grand. Donc, le film, il a été projeté hein, en Palestine, en Israël. Donc, il a été vu. Ça a amené aussi du débat avec d'anciens prisonniers et d'anciennes prisonnières, parce que là, avec ce film, elle. Parle évidemment de la prison et des femmes. L'histoire de la maternité vient se mettre au-dessus parce que c'est ce qu'il avait touché elle dans cette rencontre avec cette prisonnière palestinienne. Mais ça montre aussi le phénomène du chantage au sein d'une prison et ça va se retrouver un petit peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a cette couche quand même de haine, de détestation entre ces Israéliennes et ces Palestiniennes. Voilà. Bon, elle nous fait quand même un film d'espoir, il faut le dire. Moi, j'aimerais vous rappeler quand même que il y a quelques mois, le film avait été interdit de projection par le maire d'Argenteuil, c'est un maire Les Républicains. Il s'appelle Georges Motron, si vous voulez lui envoyer des messages.
Oh, il est connu. Hein ? Il a déjà fait parler de lui.
Ah bah oui, c'est pour ça que je le recite. Donc il avait demandé à ce que le film soit déprogrammé, ainsi que la sociologue et l'ourson qui parlait du mariage pour tous. Il paraît que ça faisait polémique. Bon, c'était pas bien expliqué pourquoi. Il y avait eu un gros mouvement de protestation et finalement, le film 3000 nuits avait été projeté dans une MJC qui était absolument pleine à craquer. Donc son plan de censure n'avait pas fonctionné. Voilà, allez voir si vous avez envie 3000 nuits.
Ouais, et puis moi j'ai trouvé que esthétiquement c'était assez joli, assez beau, alors que les situations sont difficiles et qu'il y a un vrai travail de caméra, alors que voilà, c'est son premier film de long métrage. Je trouve que c'est plutôt intéressant comme film.
Et elle essaye d'y mettre de l'espoir, donc c'est pour ça qu'elle fait aussi des plans qui sont émouvants et touchants, et qu'elle essaye d'y mettre une petite subtilité dans cette. C'est très féminin, je trouve.
C'est vrai. Voilà. Bon, on va parler un peu de pays qui virent au totalitaire. On va commencer par Trump, parce que je vais refaire un petit bilan de son arrivée. Donc, vous savez, il a pris le pouvoir, enfin, il a gagné le pouvoir, hein, puisqu'il l'a pas
tu
pris
peux le dire,
de force.
Il l'a pris, sinon il l'a gagné, mais bon.
Voilà, donc, premier décret hein, qu'il a signé, c'est contre le Obamacare. Cette réforme merdique, archi pourrie de Obama pour donner une couverture santé à presque tout le monde. Hein, mais bon, malheureusement, la réforme était pourrie. Mais enfin, il vaut mieux une réforme pourrie que pas de réforme du tout sur la santé.
Bah, surtout dans un pays où il est difficile de soigner. Quoi.
Voilà, tout à fait. Et ben bon, bref, premier décret. Alors, il l'a pas supprimé encore. Ça, c'est, ça va arriver, mais ça doit passer par le Congrès. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a accordé le plus d'exemptions possibles à cette réforme. Donc, tous ceux qui vont pouvoir y échapper vont tout faire pour y échapper, puisqu'il a donc signé un décret qui ordonne le maximum d'exemptions possibles. Ouais, ça, c'était le premier jour, vendredi. Après lundi. Donc, il a retiré les États-Unis du traité de libre-échange transpacifique, le TPP, celui qui avait pour but de contrecarrer en fait l'influence grandissante en Chine. C'est un traité qui a lieu donc dans le Pacifique, qui concerne 12 pays d'Asie-Pacifique. Alors bizarrement, les États-Unis ont tout intérêt à pas être dans ce traité. Alors, moi, je vais pas défendre le libre-échange, loin de là. Mais alors, ce traité, c'était le but d'empêcher la Chine de devenir trop forte et économiquement, les États-Unis ils vont y perdre à faire ça. Mais bon, bête comme il est allé jusqu'au bout. Il a signé aussi un décret qui interdit le financement par des fonds fédéraux des ONG internationales qui soutiennent l'avortement.
Ouais, ça fait du bruit. Hein.
Alors depuis, le Danemark a décidé de faire l'inverse, de créer un fonds pour soutenir les mouvements internationaux qui défendent et qui informent sur l'IVG, sur l'avortement.
C'est sa réponse aux gens qui sont descendus dans la rue et aux femmes qui sont descendues dans la rue ce week-end. Hein.
D'ailleurs, c'est drôle, hein, puisque tout le monde a vu cette photo où il n'y a que des hommes qui signent un truc qui concerne que les femmes. C'est énorme.
Ah, hein, mais si c'est nous pas sommes du machisme. Pas encore tout à fait libérés, il paraît.
Non.
Ceci pas dit, libérés, si, mais libres, pas tout à fait.
Ceci dit, c'est inadmissible que cet homme signe un truc qui concerne que les femmes. Enfin, si une seule femme, aucune femme n'aurait jamais dû voter pour Trump. Or, il a été élu aussi par des millions de femmes. Donc, du coup, c'est pas gagné non plus du côté des femmes américaines, hein, parce que elles sont minoritaires, celles qui sont descendues dans la rue quand même, hein, même si elles étaient très nombreuses, malheureusement. Sinon, si elles étaient majoritaires, elles auraient fait pencher de l'autre côté, hein, la victoire. Notamment dans certains États.
C'est tellement compliqué,
Oui. Non, mais même dans la Bible Belt, tous les États de bibliques, là, où il y a tous les religieux, les femmes, elles sont anti-avortement, malheureusement, majoritairement. C'est une catastrophe. Enfin, bon, bref. Il a signé un décret qui gèle toutes les embauches de fonctionnaires au niveau fédéral, sauf si c'est des fonctionnaires qui vont tuer les autres. C'est-à-dire l'armée, quoi. Là, il autorise l'armée. Mais quand c'est des fonctionnaires qui vont soigner les gens, par exemple, c'est pas autorisé. Hein. Donc voilà, il a tout fermé. Bon, il a ils ont envoyé des circulaires obligeant les fonctionnaires à fermer leur gueule, notamment à l'Agence de protection de l'environnement. Donc aucun des fonctionnaires n'a le droit de s'exprimer devant la presse sur les réseaux sociaux. C'est beau. Bon, ceci dit, devant la justice, ils peuvent le faire parce que eux, ils ont le premier amendement qui est au-dessus de tout. Donc, à mon avis, ça passe pas ce qu'il a fait. Mais bon, il essaye de faire fermer la gueule à tout le monde. Il prévient les rébellions en disant vous n'avez plus le droit de parler. Mardi, c'est un grand jour. Il a réautorisé les deux oléoducs qu'avait coupé Barack Obama. Barack Obama, il l'avait coupé plus par provocation qu'autre chose, quand même.
C'est ça, il faut
malheureusement.
Le dire, hein.
Hein. Alors bon, le premier un peu moins.
Moi, je prends,
le premier c'est Keystone, ouais. C'est celui qui relie les sables bitumineux de l'Alberta au Canada, là où on détruit toute une région du Canada pour récupérer un peu de pétrole. Le but c'est de l'amener au Nouveau-Mexique où il y a les raffineries américaines. Donc ce projet avait été arrêté au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, il l'a réautorisé, et puis surtout la dernière grosse lutte, notamment des Indiens du Dakota, du Nord, qui luttaient contre la construction d'un oléoduc qui passe sur leurs terres, et notamment sur les terres sacrées. Alors, je ne vais pas défendre l'idée de terres sacrées, je ne vois pas pourquoi il y aurait des terres sacrées, mais enfin ça représente quand même quelque chose d'important pour ces Indiens, puis c'est leur terre finalement. Et ils avaient fait une belle lutte contre l'oléoduc, et ils avaient gagné, puisqu'Obama avait plié. Bon, bah là c'est plié, ça y est, il a réautorisé. Donc on sait, on imagine et on espère que ces Indiens du Dakota Action des Sioux vont se rebeller à nouveau. Par contre, je pense que là, ça va faire mal, parce que ça sera la prison directe, si ce n'est peut-être qu'ils vont même se faire tirer dessus directement. Donc on leur souhaite bien du courage dans leur lutte contre cet oléoduc. Mais voilà, c'est mal parti. Alors mercredi, il a signé le décret lançant la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis, en précisant qu'il doit être payé intégralement par le Mexique. Et donc là, le Mexique a dit non. Et comme le président du Mexique doit venir en visite aux États-Unis, Obama, Trump a dit, si tu payes pas, tu viens pas. Bon, voilà, c'est semble bien parti la démocratie, la diplomatie avec des propos comme ça.
La démocratie aussi, elle.
La démocratie aussi, ouais.
C'était pas de la puce.
Et alors, il a supprimé toutes les pages qui étaient en langue espagnole sur le site de la Maison Blanche. Parce que la seule langue aux États-Unis d'Amérique, c'est l'anglais, bordel. C'est marrant parce que l'espagnol est reconnu comme une langue aussi aux États-Unis. Il y a des États où c'est majoritaire. Hein.
Mais ça doit le fâcher en plus certains des politiciens républicains qui sont d'origine du Mexique, par exemple, et qui parlent à leur communauté en espagnol.
Ouais, tout à fait. Et il a supprimé toutes les pages d'information qui étaient en lien ou qui mettaient des liens vers la communauté LGBT, donc des gays, des lesbiennes, des trans, sur le site du gouvernement. Ça, c'est tout giclé, ça n'existe plus. Et voilà, c'est fini, c'est plié. Donc tout ce qu'il avait dit qu'il ferait, cette belle politique d'extrême droite, donc contre les homos, contre les écolos, contre les étrangers, j'en ai pas parlé. Il a expulsé, d'ailleurs, ça y est, les 50 premiers étrangers, il les a expulsés. C'est parti, mon kiki. C'est une catastrophe, on peut le dire. C'est 50, j'ai dit 90 Somaliens et Kenyans ont été expulsés vers Nairobi, capitale du Kenya. Donc voilà, il y a 11 millions d'immigrants clandestins aux États-Unis. C'est vers les 11 millions. Bon, ça va être dur pour l'économie américaine, ceci dit, parce que ses amis vont sûrement lui mettre la pression, ses amis économistes, parce que c'est comme chez nous, d'ailleurs. L'économie libérale, elle a besoin de ces immigrés illégaux qui acceptent des salaires de merde, qui sont obligés d'accepter l'exploitation maximale que leur impose le capitalisme. Donc, à mon avis, il va être limité. Mais il a commencé quand même à expulser. C'est bien parti. Donc, voilà.
Bon. Moi, je me suis demandé s'il avait demandé les plans de construction du mur à M. Netanyahou. En fait, il avait été chercher un petit peu un modèle. Parce qu'il y a de l'expérience par là-bas.
Ouais. Mais ouais, non mais bon.
Non, t'as pas d'info.
Oh, il vient du bâtiment, il sait faire, je pense. Ils vont construire ce mur. Enfin, bon, ils le construiront pas, ou peut-être pas. Bon, il a fait d'autres choses sur les États qui accueillent des réfugiés. Il a fait des décrets pour essayer de bloquer tout ce qu'il pouvait faire. Enfin bon, voilà, ça commence très très fort, en tout cas. Et puis on va aller du côté de la Russie. Alors on avait entendu ces dernières semaines, c'était sorti, qu'il y avait une proposition pour dépénaliser les violences domestiques. Donc les violences domestiques, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison et de la famille. Donc c'est les hommes qui tapent leurs femmes, les quelques femmes qui pourraient taper leurs hommes, le chiffre existe mais quand même beaucoup plus faible, et puis les parents qui tapent leurs enfants, hein, qui les mettent dans des placards ou des trucs comme ça, quoi. Et l'idée, c'était de dépénaliser. Aujourd'hui, on peut être poursuivi en Russie, on pouvait être poursuivi en Russie si on mettait une claque à son gamin, si on tapait sa fille, si on tapait sa femme, etc. Et ben ça y est plus. Ils ont enfin officiellement dépénalisé les violences domestiques. Du coup, les mecs vont pouvoir tabasser leur bonne femme. Les parents vont pouvoir tabasser leurs enfants. C'est une catastrophe. Alors, il y a une petite limite à tout ça. Il faut pas que ça entraîne des grosses violences, c'est-à-dire qu'il y ait besoin d'aller à l'hôpital. Parce que je pense que voilà, quand tu tues ta femme ou tu tues ton gamin, tu seras encore passible de poursuites. Mais sur les violences au quotidien, et c'est souvent les pires, parce que elles ont lieu tous les jours, une petite claque par-ci par-là, un coup de pied sur la femme parce qu'elle a pas fait que la bouffe qu'elle a fait à manger c'était pas bien, ou elle a pas fait les courses. Enfin, on y met tout ce qu'on connaît des violences conjugales, des violences domestiques, et ben voilà, ça va sortir. Et c'est dépénalisé, donc c'est un truc énorme. Alors faut savoir que c'est sous la pression de l'Église orthodoxe, tout ça. L'Église qui est pour les violences domestiques, du coup, orthodoxe. Les autres, je sais pas. C'est impressionnant. Et surtout, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qui a voté. Eh bien, tout le monde. 385 voix pour, 2 contre. Donc majoritairement aujourd'hui les élus russes ont vraiment basculé du côté. Alors c'est que des mecs, hein, quasiment, mais pas que, puisque les femmes aussi sont pour. Puisque ça a été porté en partie, notamment sur la première mouture, par Elena Mizulina. Alors on l'avait déjà vue, elle, parce qu'elle avait fait voter, elle est à l'origine de la loi contre la propagande homosexuelle. C'est une propagande qui fait que quand on parle des homos, on deviendrait homo, là. C'est son truc de... C'est une chrétienne intégriste, hein. Donc elle avait déjà porté cette loi contre la propagande homosexuelle. Du coup, ça empêche de faire tout aussi la promotion des outils de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Enfin, voilà, ça limite beaucoup de choses. C'est les lois qu'elle a pu faire passer, elle. Et elle était porteur de cette loi aussi, hein, parce qu'elle est pour que les femmes continuent d'être battues. Alors, elle expliquait que c'était parce que l'idée qu'on ne batte pas les enfants et les femmes au sein du couple, c'est un truc occidental. Ah d'accord, c'est un truc occidental. Eh ben c'est intéressant de voir ça, hein, de savoir que c'est juste l'Occident qui est porteur de ces valeurs-là. Alors bizarrement, c'est mal connaître le monde, hein, c'est porté par des philosophes de toute époque et de toute région, l'idée de respecter les autres, etc. Mais pour elle, non, c'est occidental de ne pas taper sur son gamin ou sur sa femme. C'est triste de voir ça. Et donc voilà, c'est passé. Voilà, bon, ça, officiellement, c'est demain que ça sera signé par Vladimir Poutine, promulgué, comme on dit, par Vladimir Poutine. Mais bon, voilà, c'est juste une simple formalité maintenant. Donc voilà, c'est un beau pays quand même, la Russie. Et puis bon, dans la série, je bloque les sites web. Vous savez, ils avaient bloqué un site qui s'appelle LinkedIn, je sais jamais comment on prononce ce truc. Donc un site, une sorte de plateforme de réseau social là pour professionnels, hein, où on échange des CV ou des trucs comme ça. Ils l'avaient bloqué sous prétexte que les serveurs étaient pas en Russie. Donc bon, après c'est un argument qui justifie le fait que les serveurs soient pas dans le pays dans lequel est concerné. Du coup, il n'y a pas de possibilité à la justice d'aller voir ce qui se passe. C'est un peu compliqué. Bon. Cette raison qui pourrait être valable, bon, elle nous semblait déjà un peu louche quand même. Et puis là, bah, ils ont bloqué Dailymotion. Et Dailymotion, c'est pour c'est un site de vidéo là, pour des questions de droit par rapport à un média qui est détenu par Gazprom Media, donc le multinational russe proche de Poutine. Multinational, pas du tout. Ça reste en Russie, mais voilà, le gros groupe russe qui est dans les médias, mais dans plein de choses. Donc juste pour des droits d'auteur, quand on sait le nombre de sites de piratage de contenus occidentaux en musique, en film, qui existent en Russie, ça nous fait bien marrer le respect du droit d'auteur. Alors Dailymotion, ils ont dit qu'ils étaient prêts à négocier et à enlever les trucs, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Et voilà, c'est ce qui se met en place en fait au niveau de la Russie sur le web, c'est l'idée de pouvoir. Et ils ont développé un appareil juridique spécifiquement pour ça, pour bloquer l'accès à certains sites, pour faire une sorte de pare-feu qui serait entre le web et les utilisateurs russes, à l'image du modèle chinois, ou du modèle turc d'ailleurs, qui se met en place. Donc c'est ce qui se met en place petit à petit, voilà, en Turquie, en Russie, en Turquie aussi, mais là en Russie.
Alors, comme je vous le disais il y a 37 minutes à peu près, le travail, c'est bon à la santé, surtout le dimanche. C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter. Alors d'abord, dans les médias, moi je l'ai bien lu, hein, puisque le Figaro, à chaque fois. Donc je veux dire, j'ai fait une petite recherche, mais le mot « enfin » sur le travail le dimanche. Par exemple, le 3 janvier 2017, sur le site internet du Figaro, le printemps signe enfin un accord sur le travail le dimanche. Et là, nous avons ce 26 janvier, la FNAC va enfin pouvoir ouvrir le dimanche. Avec le Figaro, c'est toujours « waouh, c'est vachement bien, on ouvre le dimanche ». Mais j'ai trouvé pire, c'est sur le site de Gradia, le site internet. Oui, j'ai des lectures bizarres, vous allez me dire, mais ouais, mais voilà, ça arrive. C'est Justine Laferrière qui nous a fait un papier aujourd'hui qui s'appelle Travail dominical. Quelles sont les enseignes ouvertes le dimanche? Donc là, bon, point d'interrogation. On sent bien que ça va être informatif, mais enfin, on sent bien quand même qu'on est sur Gradia et ça donne. Dorénavant, on pourra choper aussi le dimanche.
Tu vas pouvoir c'est un verbe choper.
Voilà. Alors on en rigole, mais n'empêche que nous, ça nous fait pas marrer, puisque monsieur Bompard, Alexandre Bompard, le patron de la FNAC, lui, il est tout content, il a la banane, puisque la FNAC va pouvoir ouvrir ses magasins le dimanche grâce à un accord national. Bon, on l'attendait bien tomber, hein, cet accord. L'accord donc sur le travail dominical à la FNAC a obtenu la majorité nécessaire, c'est-à-dire plus de 50%, pour être appliqué. Cet accord était bloqué il y a plusieurs mois par la CGT Sud et FO qui ne souhaitait pas que nous puissions tous et toutes aller travailler le dimanche. Mais comme il y a eu un petit changement de rapport de force lors des dernières des élections, ben du coup, ils ont perdu, puisque la CFDT, 18% de représentativité, a approuvé le texte. On attendait donc leur décision, qu'on attendait bien positive. Hein. Donc la CFDT suit la CFE-CGC et la CFTC. Alors la CFDT a fait savoir, la CFDT FNAC a fait savoir qu'elle avait pris sa décision après consultation de ses sections, dont une très large majorité a voté en faveur de cette signature. La CFDT aussi, a expliqué aussi que c'était un accord qui était intéressant puisqu'il y avait des améliorations en termes de création de postes, soi-disant 90 emplois en CDI promis par la direction. Donc la CFDT a été signé tout ça main dans la main avec le patron. Alors donc il va y avoir 9 nouveaux sites qui pourront ouvrir tous les dimanches de l'année, c'est-à-dire ceux qui étaient hors des zones touristiques internationales et hors des zones touristiques et zones commerciales. Bon, c'est toujours le principe hein, du volontariat. Les salariés auront 300% sur les 12 dimanches les plus chargés de l'année, 200% sur les 40 autres dimanches, on apprend. Le salarié aura le droit de se rétracter et de dire qu'il n'est plus volontaire après avoir prévenu un mois à l'avance. Et puis, la FNAC s'est engagée à payer les frais de garde des enfants de moins de 12 ans en donnant 100 € par dimanche travaillé. Quand je vous dis qu'on va tous et toutes travailler le dimanche, ben oui, vous voyez, il y a des gens, ils trouvent un boulot, ils peuvent garder des enfants. C'est pas mal hein, quand même. C'est bien fait le libéralisme, moi je trouve. Tout le monde s'y retrouve au final. Sur l'histoire d'augmentation du taux d'embauche compensatrice, la CFDT, c'est ce qui a fait signer, hein, c'est un des accords que la CFDT a bien approuvé. Du côté de Sulfnac et de la CGET, on trouve que c'est pas une bonne idée, puisque de toute façon, on a beau avoir des embauches compensatrices, en même temps, il y a de moins en moins de gens fixes, donc en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors bon, ça pour la FNAC, hein, c'est fait. Par contre, du côté de Carrefour, ça, par contre, c'est pas fait, puisque FO est majoritaire au sein du groupe, et FO a dit non. Il y a eu une consultation organisée mardi à l'occasion de l'Assemblée Générale à Nantes, et les syndicats FO ont voté à 85,72% contre le projet d'accord sur le travail du dimanche matin, puisque là, c'était que pour le dimanche matin. D'ailleurs, la CFDT en interne avait aussi fait des consultations. Elle avait consulté la CFDT 10 000 salariés et plus de 94% 40% des suffrages étaient contre le travail dominical. Donc la CFDT, elle est restée en arrière. Hein. Elle a dit, oulala, je crois que ça va pas le faire, ils vont plus voter pour nous après. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal pour l'instant. Il y a une résistance. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les accords qui sont en train d'être conclus dans ces grands magasins ne se ressemblent pas du tout. Là, on a l'impression que chez la FNAC, il y a quand même un accord qui semble plutôt valorisé vers le haut. Mais il faut savoir que il y a des endroits où vous avez juste votre salaire doublé. Vous allez me dire, c'est vachement bien. Vous venez quand même travailler le dimanche, mais vous aurez pas de journée de repos compensateur. Donc en fait, chacun fait sa petite règle dans son petit magasin et dans son groupe, et ce qui donne des différences très importantes au niveau de ces accords qui sont en train d'être signés. Alors rapidement, je vais vous parler de quelques grèves pour poursuivre un petit peu dans l'idée, dans ces grèves. Je vais vous parler de celle de la FNAC des Champs-Élysées. On va rester un petit peu dans l'idée. Donc ce sont des salariés qui se sont principalement des employés qui sont mis en grève. Alors, les syndicats expliquent qu'il y en a beaucoup qui sont pas mis en grève aussi, parce que soit ils sont précaires, soit ils sont pas permanents. Certains et certaines, en cachette, donnent des sous à la Caisse de solidarité, donc il y a quand même un mouvement qui est soutenu. Alors, dans la FNAC des Champs-Élysées, on revendiquait une prime de pénibilité. Ça faisait 46 jours là qu'ils étaient en grève, c'est un truc de fou, hein, la FNAC Champs-Élysées. Alors bon, entre-temps, il y a cet accord dominical qui est tombé, puisque ce magasin est ouvert jusqu'à minuit. Et le dimanche, maintenant, vous voyez, c'est un truc de fou, quoi, cet endroit. Il faut dire que c'est la vitrine internationale pour la FNAC, mais c'est un établissement qui est tout pourri, maintenant. Déjà, il faut comprendre qu'il y a des grands courants d'air, donc il y a une forte pollution qui rentre à l'intérieur du magasin. Ça, c'est mis en avant par les syndicats, mais il y a aussi des bâtiments... Le bâtiment est pas très agréable. Au sous-sol, il n'y a pas de fenêtres, donc pas non plus d'aération. Vous allez me dire, c'est pollué, mais enfin bon. Dans la salle de repos... il paraît qu'il y a des cafards dans les sous-sols. Et puis il y a cette chose très très drôle qui a aussi fait que le mouvement s'enlise un petit peu. C'est que ils se sont un petit peu énervés aussi, puisque la direction en a profité pour faire savoir qu'elle allait fermer les magasins plus tôt, à 22h30 et à 21h le dimanche. On va me dire, c'est mieux, puisque les gens vont travailler moins tard. Sauf qu'elle n'a pas vraiment replacé au niveau des plannings le personnel, donc ça s'est un petit peu agacé. Et puis alors, la dernière affaire, en fait, qui a beaucoup énervé les salariés de la FNAC Champs-Élysées, hein, c'est que il y avait eu une erreur du centre de paiement des salariés de la FNAC Champs-Élysées qui ont reçu un salaire supérieur à ce qu'ils avaient habituellement. Donc ils ont dû rendre le trou perçu, hein, ils l'ont pas gardé malheureusement. Mais c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que dans d'autres FNAC, à Italie 2 par exemple, au Forum des Halles, les salariés avaient des primes plus importantes qu'eux pour le travail du dimanche et pour la pénibilité. Donc ça a un petit peu jasé quand même au sein du groupe, vous voyez, ils se sont un petit peu agacés de tout ça. Donc la direction a accepté a priori de les rencontrer, mais les syndicats et les grévistes font quand même savoir que la direction a fait appel au service d'une société extérieure de sécurité, des agents au physique de videurs de boîtes, c'est ce que j'ai pu lire dans le communiqué des grévistes, qui avaient pour mission de briser la grève. Donc il y a eu des banderoles arrachées, des grévistes bousculés, il y a eu un collègue qui a été agressé, c'est ce qu'ils nous racontent, des ITT pour 6 jours, finalement, ça c'était ce qui est prévu au début, finalement c'est 8 jours, un traumatisme osseux, odome, rupture des ligaments, donc ça chauffe du côté de la direction de la FNAC Champs-Élysées, qui n'a pas du tout l'intention de laisser des grévistes et des syndicalistes gêner le bon développement économique des magasins. En tout cas, nous, on les soutient. Et puis très très vite, juste, je vais pas revenir sur la grève à Sogea TPI, la filiale de Vinci, parce que d'autres Canu Info l'ont fait cette semaine. C'est très intéressant à aller voir, sinon sur Paris Lutte Info, le site internet, parce que au moins vous aurez les infos des gens qui sont sur place. Juste pour dire aussi qu'il y a une belle grève de 4 jours à Gibert Joseph Saint-Michel. C'est très très rare, hein, qu'à Gibert Joseph il y ait des grèves. Il faut quand même le souligner. 4 jours de grève intensive dans cette boutique de Saint-Michel à Paris. Les grévistes soutenaient un collègue caissier et syndicaliste CGT. la direction parlait d'un problème disciplinaire pour ses soutiens. C'est pas un problème disciplinaire, mais un problème discriminatoire. A priori, il s'est peut-être un peu échauffé un jour pour expliquer des conditions de travail difficiles au sein du magasin. Et ses soutiens expliquent bien que c'est bien les conditions de travail qui rendent aujourd'hui les gens à fleur de peau et que s'il s'est peut-être emballé verbalement, c'est pas aller plus loin. Alors, il y a un accord qui a été signé mercredi dans la matinée. Ce fameux cégétiste caissier avait été convoqué la semaine dernière, vendredi dernier, pour un entretien préalable à licenciement. Finalement, il va garder son emploi et la procédure de licenciement va être commuée en sanction. C'est déjà ça, hein, les 4 jours n'ont pas servi à rien. Et puis, c'est surtout que les grévistes aimeraient bien rencontrer la direction, ce qui devrait se passer puisqu'il y a une réorganisation au sein de l'établissement et que ça se passe pas très très bien, qu'il y a du stress. Et ça, ils aimeraient bien que la direction entende qu'à chaque fois qu'un syndicaliste va amener des revendications au patronat, c'est pas pour faire la révolution, c'est qu'il y a des vrais problèmes à l'arrière et qu'à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Donc voilà, 4 jours de grève, mais finalement, comme quoi, ça peut marcher, même en étant très bref.
Et après, t'avais encore une grève ?
Non, c'était tout. Tu peux passer à l'environnement.
Alors, on va parler un peu d'environnement. La première info du jour, c'est la mauvaise nouvelle qui nous vient du Sénat. C'est le feu vert définitif à la ratification de l'accord entre la France et l'Italie pour lancer les travaux de la nouvelle ligne ferroviaire bien pourrie qui s'appelle le Lyon-Turin. La ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Donc c'était le dernier obstacle, il manquait plus que ça. Donc c'est parti, il y a au moins donc ça a commencé il y a longtemps les négociations. On sait qu'en février dernier, ça avait été signé cet accord entre Matteo Renzi et François Hollande et on attendait donc l'adoption par le Sénat. Donc c'est parti, les travaux devraient commencer en 2018 parce que maintenant ils peuvent lancer l'appel d'offres pour les marchés publics et ensuite ils vont construire cette liaison avec un énorme tunnel de 57 km qui partirait de Saint-Jean-de-Maurienne et qui irait dans la vallée de la Suze en Italie. Là. Très belle vallée qui va être entièrement bousillée par cette infrastructure inutile. On le rappelle que au départ, la justification, c'était de limiter le trafic routier. Donc ça devait être une ligne moderne à grande vitesse avec du ferroutage pour transporter des marchandises, puisque le but, c'était de limiter le trafic routier. Or, il va s'agir d'une ligne sans ferroutage, puisque ça sera juste une ligne grande vitesse traditionnelle. Donc on va gagner une demi-heure entre Lyon et Turin, pour un chantier colossal qui va coûter 26 milliards d'euros, dans lequel les gros groupes du bâtiment vont s'engraisser et vont participer à la destruction de l'environnement, puisque c'est une colline sur laquelle il y a des roches radioactives d'ailleurs. Donc quand on perd, ça fait des poussières radioactives un petit peu sur cette montagne à cet endroit-là. Enfin voilà, il y a plein d'effets négatifs, on en a parlé beaucoup ces dernières années. Voilà, aujourd'hui ça y est, c'est fait, c'est signé. C'est triste. Deux petits mots sur Areva. Pas de bol aujourd'hui, Areva. Il y avait une réunion, d'information, comme ils appellent ça, une commission locale d'information qui réunit les industriels, les syndicats, l'autorité de sûreté nucléaire, les élus locaux, les écolos, les associations écologistes et puis quelques gens du CRU qui habitent là-bas. Donc là, c'était vers la Manche, dans la Manche d'ailleurs, et Areva a annoncé officiellement qu'ils allaient ramasser les terres polluées à l'américium 241, un élément radioactif qui, je crois, qu'il n'existe pas dans la nature, mais qui est créé dans les centrales nucléaire, et qu'ils ont trouvé autour de la centrale, autour de l'usine de retraitement, je veux dire. Mais dire comment c'est sorti ? Alors ça, la problématique n'est pas là, ça date d'un certain temps, mais bon, il y a plein de terres polluées, donc ça va être dépollué normalement. Alors la demi-vie de l'américium, c'est 432 ans. Donc au bout de 432 ans, c'est deux fois moins radioactif. Au bout de 864 ans, il reste encore un quart de la radioactivité. Enfin voilà, bon, c'est un peu dangereux pendant un certain temps. Alors, faut savoir que Areva n'a rien fait, n'a rien révélé. Ils ont jamais dit que c'était pollué, que c'était radioactif. Bien évidemment, ils l'ont caché. Ils se sont tus. Le nucléaire, c'est ça, c'est une société totalitaire. On ne dit rien. Il a fallu qu'une association de gens de riverains se monte en association et fasse des mesures et découvre cette pollution. Et pour eux, ça peut être encore plus grave parce que ça veut dire s'il y a ça, il y a d'autres éléments radioactifs qui se sont échappés. notamment du plutonium, dont la durée de vie est, elle, nettement plus importante, c'est en dizaines de milliers d'années. Donc voilà, tout n'a pas été mesuré encore. Bon, bref, Areva se défend en disant, je cite le responsable d'Areva, il a dit, non mais, il faut ingérer environ 30 kilos de terre sèche, 300 kilos de terre fraîche pour atteindre la limite de 1 millisievert, qui est la limite annuelle. Donc voilà, c'est pas dangereux. Bon, il a été cassé un petit peu lors de cette réunion par le membre de cette association environnementale de mesure de la radioactivité, qui est aussi maître de conférence à l'université de Caen, et qui a dit oui, non mais enfin on mange pas la terre, par contre par inhalation on est contaminé en général 150 à 200 fois plus que en mangeant de la terre. Donc effectivement il y a des vrais risques. Areva reconnaît que voilà qu'il y a cette pollution, ils vont l'enlever. Enfin ils chipotent sur un petit peu tout, c'est un petit peu limite à chaque fois. Et alors, gros problème du côté des évaporateurs, on est toujours à La Hague, c'est dans cette même réunion en fait où deux infos sont sorties, où là ils reconnaissent qu'il y a des problèmes sur les évaporateurs. Donc ça permet de faire sortir l'eau et de garder les matériaux radioactifs. Donc ils sont très attaqués à l'intérieur, l'épaisseur des cuves, il y en a qui font 7 mm aujourd'hui, alors qu'au départ, quand elles ont été construites, elles faisaient 14. Donc elles ont été bouffées à moitié. Donc il y a eu, lors des tests, ça a montré leur fragilité. Donc ils se sont engagés à faire quelque chose pour essayer de les rendre moins dangereux, en installer 6 nouveaux. Alors l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas donné l'autorisation, mais bon voilà, ils prévoient d'améliorer le matériel. Je pense que les riverains, quand ils entendent ça, ce genre de réunion, ils sont pas rassurés. Quand on leur dit oh, ça faisait 14 mm d'épaisseur, bon 1,4 cm, quelques années après leur utilisation, ils sont toujours en cours d'utilisation, ils sont passés à 7 mm certains. Putain, c'est pas loin de péter, hein, parce que c'est sous pression quand même ces trucs. Donc voilà, bon, bref, c'est le, comme d'habitude, Areva qui a pris la main dans le sac en train de, voilà, qui se fait choper soit par les riverains eux-mêmes, soit par l'autorité de sûreté nucléaire, qui démontre que voilà, c'est le nucléaire fonctionne pas si bien que ça. Et puis un petit mot pour ceux qui suivent un peu l'actualité de Negawatt, c'est un réseau de scientifiques notamment qui démontre depuis très longtemps qu'on peut sortir du nucléaire. Alors eux, ils prennent du temps, ils mettent 30 ans pour sortir du nucléaire. Ils ont réaffiné leur scénario, donc aujourd'hui ou hier, le scénario a été republié. Vous pouvez aller voir ce qu'ils proposent. Donc on peut sortir du nucléaire et d'ici 2050 basculer en 100% renouvelable. On le savait déjà. On sait qu'on peut le faire beaucoup plus vite. Négawatt, c'est juste qu'ils sont gentillets, quoi. Mais même ça, en y allant doucement, déjà ça fait peur à tous les politiques. Parce que c'est sur 30 ans. Alors je vous parle même pas d'un vrai scénario où on sortirait en quelques années du nucléaire, ce qui est aussi possible, mais beaucoup plus contraignant, beaucoup plus difficile. Donc voilà, c'est tout réexpliqué. Si vous avez jamais eu d'explication scientifique pour comment d'ici 30 ans sortir du nucléaire et passer en 100% renouvelable, je vous incite à aller sur le site du réseau Negawatt. Nega, c'est les watts qu'on consomme pas en fait. Du coup, c'est un peu la problématique véhiculée par ce réseau qui est très très intéressant.
Alors on va terminer rapidement avec Fesch Hollande. J'avais envie de vous donner des nouvelles de... Ah non, on va faire autrement. Qui a dit « Centré sur le rythme, la musique nègre s'adresse aux cervis reptiliens ». Qui a dit « C'est le racisme des juifs qui les a conduits au monothéisme quand ils ont privé de leur dieu les goyim qui haïssaient ». Qui a dit « Je suis émerveillé de la longévité des rescapés de la Shoah, morts à plus de 90 ans, ont-ils vécu les horreurs qu'ils ont racontées ?» Qui a dit « À cause des cosmopolitismes, le coefficient de blancheur de l'équipe de France de balle au pied est en chute libre ?»
C'est pas le patron de Radio Courtoisie ?
Si, Henri de Lecquen, tout à fait. S'était expliqué le 7 décembre dernier devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Il était poursuivi pour injure publique, contestation de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale. Et bah, a priori, ses propos et ses explications n'ont pas convaincu les juges. Le parquet avait requis 6 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Il a été condamné hier à 16 000 euros d'amende. Alors moi je trouve que c'est une sanction bien légère, ouais, il paraît aussi qu'il a du fric et qu'il a expliqué qu'il s'en fichait,
ouais, puis c'est pas la première
de
fois,
payer non. Des amendes et puis surtout quand on lit un petit peu les retranscriptions du procès en décembre on s'aperçoit que c'était le cirque, le théâtre, hein, qu'il s'est beaucoup amusé. D'ailleurs il a beaucoup amusé tout le monde parce qu'en même temps il devient un petit peu ridicule. Malheureusement il paye qu'une petite amende financière, ça le touche pas trop finalement. On rappellera aussi que Radio Courtoisie a reçu une mise en demeure du CSA hein, pour les propos répétés de son chef, et que là le procès ne touchait pas ses propos à l'antenne mais ses tweets et tout ce qu'il avait écrit sur son site internet. Et puis très rapidement, parce que moi ça m'a fait bien marrer, c'est Madame Marine Le Pen qui a souhaité faire une petite visite du camp de Grand-Synthe.
Et ben, elle a... camp de réfugiés.
Ouais, migrants. Elle a pas pu y rentrer. Hein. Bah non, en fait c'était pas prévu à l'agenda officiellement pour éviter le comité d'accueil. Elle commence à bien nous connaître en fait.
Ouais, c'est ça. Elle a peur des opposants.
Que les antifa, on va y aller et qu'on va s'énerver. Et ben c'est le maire en fait, ELV, Damien Carême, qui lui a interdit l'accès. Il a décidé que c'était pas un zoo et qu'en plus elle arrêtait pas de critiquer. Donc globalement il lui a dit casse-toi.
Voilà. Et marche à l'ombre.
Moi, ça m'a fait marrer. Et alors, en plus, j'adore parce que du coup, Jean-Marie Le Pen, mercredi, a vu la Cour de cassation rejeter le pourvoi du FN pour supprimer son titre de président d'honneur. Et puis, aujourd'hui, c'est la Cour d'appel de Versailles qui va encore dans son sens, qui a rejeté un recours du FN qui lui permettait encore une fois de garder son titre.
Donc il va garder son titre, de toute façon il finance la campagne de sa fille, donc voilà.
Bon. S'amuse.
Ils font semblant de s'engueuler, on comprend pas tout. Ouais. Bon, alors il nous reste quelques secondes pour...
Mais tu sais qu'il paraît que Madame Le Pen, elle est allée à la place au marché.
Elle a découvert
et
un
voir
marché.
Les commerçants de Calais, voilà. Et elle a trouvé que c'était vachement bien, ouais. Que l'accueil y était favorable.
Voilà, d'ici quelques secondes, vous allez écouter l'émission Papillon, avec plein d'invités aujourd'hui. Et quelques petites infos dans l'agenda. Donc d'abord, c'est vendredi soir, on va aller à la ruche de Villefranche. Et ils invitent, c'est le comité Action Solidaire qui organise un débat autour de la Palestine. Il y aura entre autres Georges, qui est membre de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, des membres de la campagne BDS dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, un débat autour de la Palestine et de la lutte pro-palestinienne, on va dire. Donc ça c'est vendredi soir, demain à 19h30 au local de la Ruche, c'est pour les gens qui habitent Villefranche-sur-Saône. Et sinon à Lyon, 28 janvier, ça sera donc
c'est samedi.
Samedi. Voilà, samedi. Vérité et justice pour Mehdi, donc qui est mort dans un accident de la route. A priori, il était poursuivi par la police et les faits sont pas très clairs. Hein. C'est la version gentille que je dis là à l'antenne. Grosso modo, c'est quand même assez louche son accident. 28 ans, hein, il venait de fêter l'anniversaire de sa fille. Donc il y a une manifestation de soutien. Sur le lieu de l'accident, c'est à l'angle des rues de Pressensé et de Salingros, c'est à Vénissieux, et c'est samedi, donc à 14h30. Et puis deux débats autour de livres. Le premier, c'est à la librairie La Griffe à 15h, donc toujours samedi, rue Sébastien Griffe dans le 7e. C'est autour d'un livre qui s'appelle L'usine nuit et jour, journal d'un intérimaire. C'est une réédition, mais voilà, ça permet de parler du travail et de l'exploitation notamment. Et puis au même moment, à même heure, à la librairie Terre des Livres, là c'est à nouveau sur la Palestine, puisque il y a Ewal Eyal Sivan, qu'on connaît bien dans la lutte pro-palestinienne, et Armel Labori, qui vient de parler de leur livre qui s'appelle « Un boycott légitime », sous-titré « Pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël ». Donc ils viennent parler de leur livre. C'est organisé aussi par l'Union Juive Française pour la Paix et aussi le collectif 109 du peuple palestinien. Donc c'est 86 rue de Martial, la librairie Terre des Livres, pour cette rencontre. Et tout de suite, l'émission Papillon.
Nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une belle soirée. Et oui, malgré toutes ces horreurs. Alors, si notre ami veut bien se permettre d'entrer, non, c'est tout lancé. Et c'est parti alors.